Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation de la matinée. On te retrouve juste après l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui vous propose de partir à la rencontre de ceux qui animent et qui font vivre notre cher territoire de la côte sud des Landes. Et aujourd'hui à Souston, nous allons parler des métiers d'art, parfois méconnus ou peu considérés. Ils sont souvent l'âme des territoires, notamment en milieu rural. Et une association landaise s'évertue à rendre vivants ces métiers d'art. C'est l'association Maestriart que nous recevons aujourd'hui, représentée par Charline Vaillant et Véronique Pourouche. Bonjour mesdames, merci d'être parmi nous ce midi.
Bonjour à vous.
Merci de nous recevoir.
Avec plaisir. Mesdames, vous n'êtes pas venues seules aujourd'hui dans notre studio puisque vous êtes accompagnées de deux artisans d'art. Il devait être trois, mais il y a une excusée. Problème de voiture, j'ai cru comprendre. Donc vous êtes avec deux artisans d'art avec qui nous parlerons du coup de leur savoir-faire respectif et de leur production, de leur parcours aussi. Je souhaite la bienvenue à Jacinta qui nous vient de Souston. Bonjour Jacinta.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Avec plaisir. Et vous êtes accompagnée, alors il en fallait un, il en fallait bien au milieu de ces dames, sinon je me serais senti un petit peu seul. C'est Mathieu qui nous vient de Tos, juste à côté du studio. Bonjour.
Mais bonjour.
Et bienvenue à tous les quatre l'invité du 12-13 pour une heure d'échange que nous avons devant nous. Nous avons plein de choses à nous dire et à faire partager à nos auditeurs. Mais avant cela, c'est l'heure du flash info national et international. On s'en vient dans deux petites minutes.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
Et nous démarrons notre émission autour des métiers d'art aujourd'hui avec l'association Maestriart, représentée par Charline Vaillant et Véronique Pourouche aujourd'hui. Alors, en introduction de notre émission, messieurs, dames, nous demandons toujours aux invités de se présenter brièvement. Alors n'y voyez pas de la malice ou de la flémardise de notre part, hein. C'est juste que nous aimons bien que les invités puissent choisir leurs propres mots pour nous parler de leur parcours de vie et pour se présenter. Alors je vais peut-être demander à Charline de démarrer, de nous dire un petit peu,
si tu veux,
de nous présenter son parcours.
Alors moi je suis auvergnate, voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on est dans la région, j'ai suivi mes parents, parce que j'étais un petit peu jeune à l'époque, donc voilà. Sur Tyros, ça fait 25 ans qu'on est là, et ça fait 8 ans que je suis tapissière. Voilà.
Très bien. Donc tapissière...
En siège. Oui.
D'accord. Donc c'est pour fabriquer des fauteuils avec de la tapisserie, des poinçons, des trucs comme ça.
Voilà, c'est pour refaire en totalité, souvent, le fauteuil de papy-mamie. C'est souvent des fauteuils de cœur, donc du coup, ils veulent le garder dans la famille, et c'est vrai que c'est important.
Et donc vous êtes aussi présidente et trésorière de l'association Maestriart, et vous êtes accompagnée donc par votre amie Véronique, qui est secrétaire de l'association et aussi illustratrice. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots,
Véronique ? Oui, alors moi je suis retraitée, j'ai rencontré Charline parce qu'elle m'a refait justement deux fauteuils qui étaient dans la famille, et donc on a lié amitié suite à cette collaboration, puisque... Elle m'a permis d'avoir ces fauteuils comme je les avais imaginés, puisqu'on a créé toutes les deux le tissu.
D'accord.
Pour qu'elle puisse me refaire ces fauteuils. Donc voilà, je suis dans la région depuis 4 ans maintenant, mais j'y venais tout à fait régulièrement précédemment. Et je fais des illustrations l'inspiration me vient de mes amis, de ma famille, du temps qui passe, d'un événement qui s'est déroulé dans la journée quelquefois. Voilà, j'ai toujours pratiqué le dessin, le modelage, la sculpture, toutes les matières m'inspirent.
Okay, très bien. Vous êtes donc accompagné de deux artisans qui vont exposer donc au prochain, ce week-end, aux arènes de Tyros, au festival des métiers d'art, la 4e édition.
Merci.
Absolument.
Beaucoup.
Merci à eux d'être venus. Alors on va commencer par Jacinta. Jacinta, vous êtes couturière, c'est ça ?
Oui. Je suis couturière, donc maintenant ça fait 6 ans maintenant. Je suis sur Souston, je suis dans la région depuis 2019 si je me trompe pas, mais je venais ça fait
des années. Rapport,
Ouais, c'est une région de cœur quand même, donc c'est un vrai coup de cœur. Et quoi dire
Mais non, vous êtes là pour parler de votre, voilà, pour parler de votre activité. On y viendra un petit peu dans le détail, un peu plus loin dans l'émission. Vous êtes accompagné donc de Mathieu, qui est souffleur de verre à Tosse. Oui, c'est le régional des régionaux de l'étape.
Tout à fait, c'est ça. On a un point commun, oui, c'est vrai que je viens d'Auvergne aussi, oui, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvés avec
deux Auvergnats dans le plateau.
En force.
Exactement, c'est ça, donc du coup, oui, donc moi je m'appelle Mathieu, donc ouais. Je suis souffleur de verre depuis très très longtemps quand même, puisque j'ai fait pas si vieux, mais quand même, ça fait, on va dire bien 15 ans quand même. Je pense, même un peu plus maintenant, et donc du coup, moi je suis arrivé dans la région il y a à peu près 5 ans, donc voilà, j'ai un peu voyagé à droite à gauche, et donc du coup, j'ai atterri ici. Il y a 5 ans.
Voilà, avec les fortes chaleurs aujourd'hui, mais nous sommes au frais dans ce studio pour discuter donc des métiers d'art. Alors on va parler du festival qui a lieu à Tyros un petit peu plus tard dans l'émission, mais pour planter le décor, et c'est peut-être plus à Charline que je m'adresse là, j'aimerais qu'on puisse faire une petite définition, si c'est possible, de l'artisanat d'art ou des métiers d'art. Quelle est finalement la différence entre l'artisanat d'art et l'artisanat tout court, ou même avec les créateurs? Quelle est la spécificité finalement de l'artisanat d'art, et pourquoi s'y intéresser d'aussi près?
Alors déjà, l'artisanat d'art, c'est un savoir-faire que l'on apprend. Donc le plus souvent, on va à la chambre des métiers.
Oui, et de l'artisanat.
C'est important, et de l'artisanat. Mmh. Et il faut les soutenir parce que... Oui. Faut y aller, hein. Surtout c'est important de garder ce savoir-faire dans tous les métiers artisanaux. Il faut que les jeunes s'y intéressent, il faut qu'on les pousse à aller visiter les festivals comme le nôtre, pour leur donner envie et aller au maximum de ce côté-là. Sinon, au fur et à mesure, les artisans vont disparaître et ce serait dommage.
Et alors, qu'est-ce qui différencie les artisanats d'art? Pourquoi on y ajoute le mot art à artisanat d'art ou à métier d'art par rapport à l'artisan classique? Alors moi, j'ai l'image de l'artisan entre guillemets classique, c'est-à-dire peut-être le peintre en bâtiment, ou le maçon, etc. L'artisan d'art, il va un petit peu plus dans le détail, non?
Après, voilà, c'est vraiment la spécificité de l'artisanat d'art, c'est vraiment un titre, en fait. Mmh. C'est avec déjà le diplôme et avec plusieurs années d'expérience. Et au fur et à mesure de ces années d'expérience, on peut demander ce titre à la Chambre des métiers. Voilà.
Jusqu'à atteindre...
Mais c'est vraiment un savoir-faire.
Hein. D'accord.
Voilà.
Donc le savoir-faire qui est aussi qui nécessite la question, vous l'avez brièvement abordée tout à l'heure, mais la question de la transmission, de son maintien du savoir-faire. Parfois, c'est des savoir-faire qui peuvent être centenaux, millénaires. Et c'est des choses... C'est des choses qu'on fait en regardant faire, qu'on apprend à faire avec des mentors, des choses comme ça. Donc, est-ce que parlons maintenant de votre association Maestriart, elle a été justement, j'imagine, créée pour participer à cette transmission des savoir-faire, faire en sorte que ça perdure et que surtout, de génération en génération, ça ne se perde pas. Est-ce que ça a été la vocation première de votre asso?
Alors, au début, un petit peu, mais le plus, c'était de nous faire sortir, nous, les artisans, de nos ateliers.
Ah, d'accord.
Voilà, parce qu'on est souvent... un peu caché, voilà. Et il fallait qu'on se fasse connaître, se montrer notre savoir-faire, tout ce qu'on aime dans notre métier, partager. Donc il fallait qu'on se montre. Et pour se montrer, il faut sortir.
Oui.
Voilà. Parce qu'il y a les réseaux, mais ça fait pas tout.
Et puis on n'est pas tous doués dans la communication au niveau des réseaux, n'est-ce pas, Jacinta? Vous avez un atelier, vous? Alors comment ça se passe?
Alors, mon atelier est à mon domicile, justement, donc je ne reçois pas du coup mon domicile. C'est pour ça que tous ces événements-là, en fait, finalement, tout ce qui est marché, festival d'artisanat, nous, ça nous permet aussi effectivement de nous montrer, de faire valoir notre travail, notre savoir-faire. Et du coup, peut-être aussi de sensibiliser encore plus les gens aujourd'hui sur ce maintien nécessaire, justement, de l'artisanat. Il n'y a rien de tel que le travail de ses mains, en fait, finalement.
Oui, et puis de le faire partager, de le montrer, etc.
Exactement.
Alors, en termes de vocation, moi, j'avais une question donc, qui s'adresse notamment à Mathieu et à Jacinta. J'aimerais savoir comment on arrive à faire des métiers d'art son activité principale. Comment on se dit un jour, est-ce que c'est... je suis doué de mes mains, je vais faire ça, ou est-ce que c'est par défaut parce que je dis les cours de maths ça m'embête, ou est-ce que c'est parce qu'on a dans la famille ou dans son entourage quelqu'un qui nous a montré comment faire, comment on crée cette vocation de ces métiers si particuliers et si spécifiques?
Bah, je vais un peu casser le mythe, en fait, pour ma part, parce que moi, en fait, j'étais pas du tout voué à faire ça.
D'accord.
Je suis vraiment tombé par hasard dessus. Alors, effectivement, on va dire que niveau études, j'étais pas non plus le meilleur des élèves, quoi, on va dire. Et en fait, à côté de chez moi, un peu par facilité, un jour, j'ai fait un stage et il y avait, donc, du coup, le CAP, souffleur de verre, à côté de chez moi.
Donc, en Auvergne à l'époque, c'est ça ?
Exactement.
Enfin, dans le centre de la France.
Exactement, dans le centre de la France, dans l'Allier, exactement. Et en fait, j'ai fait un stage de 3 jours et je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, mais je veux faire
révélation.
Ça.
Révélation, ah, c'est beau. Ouais. Bah non, bah, ouais. Ça casse pas le mythe, au contraire.
Ah bah un petit peu, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, allez, on va faire ça parce que c'est à côté, quoi. Ça se trouve.
Ah ouais, mais enfin, il y a quand même
ouais,
mais
en
fait, le déclic, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Et puis après, ce qui a été super intéressant, et là où mes parents ont vu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, c'est que en fait, ça se passait super bien à l'école, quoi. Alors qu'au début, c'était pas du tout, ça. Et donc, du coup, c'est vrai que même avec, on va dire, plusieurs années d'études, ouais, je me suis accroché pour pouvoir en faire mon métier, quoi. Et d'accord. Ça ne m'a jamais lâché.
Donc ça passe effectivement par la formation professionnelle. C'est l'occasion de dorer ou redorer son blason et de saluer tous les enseignants des lycées professionnels, des écoles spécialisées qu'on ne valorise pas assez, je trouve, dans notre pays, parce qu'on a effectivement besoin de producteurs, de gens qui font des choses de leurs mains et qui le transmettent. Alors messieurs, dames, on est 4 en studio, donc le temps passe vite. C'est déjà l'heure de notre première pause, mais rassurez-vous, on se retrouve dans 3-4 petites minutes pour continuer la suite de nos échanges autour des métiers d'art. À tout de suite.
Économie, sport, environnement politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous revoilà pour la deuxième partie de l'invité du 12-13 à Souston, où l'on parle aujourd'hui d'artisanat d'art avec l'association Maestriart et deux futurs exposants du 4e festival des métiers d'art qui aura lieu dans les arènes de Tyros ce week-end. Alors nous terminions nos échanges sur la partie précédente autour de l'histoire de Mathieu, donc souffleur de verre, venu d'Auvergne, etc. Et de sa découverte donc du métier, de son métier actuel, de souffleur de verre. Parlons du coup de la formation professionnelle. C'est un petit peu le moment de la mettre en lumière. Jacinta, alors vous de votre côté, vous êtes plutôt autodidacte, mais vous êtes aussi la maman... la maman d'un jeune homme qui est menuisier et
oui.
qui a suivi une formation professionnelle et qui est souvent considérée à tort comme une voie de garage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire et le fait que ça a été un petit peu parfois peut-être dur ou en tout cas...
En fait, c'est surtout qu'il a fallu convaincre pas mal de monde... Oui. Que ce n'était pas parce que c'était un bon élève à l'école qu'il n'avait pas le droit de partir sur une voie professionnelle. Oui. Voilà. Oui. Donc, effectivement, on se retrouve parfois avec des enfants qui, en fonction de leur environnement, de l'entourage ou autre, se retrouvent dans des formations plus classiques en attendant, parce qu'on lui dit « passe ton bac avant
».
Et effectivement, on a rencontré lors du salon de l'alternance qu'il y avait eu à l'époque en région parisienne, on avait rencontré différents étudiants, justement, qui avaient suivi ce parcours classique, le bac, le machin, et qui, finalement,
en revenaient
et repartaient sur des formations. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'irréversible.
Oui, c'est l'enjeu de l'orientation, après.
Exactement.
C'est difficile de trouver, au plus jeune âge, la vocation tout de suite.
Exactement. Ils ont déjà tellement de mal à trouver leur vocation... que s'ils ont envie d'essayer de partir sur une formation professionnelle, il faut y aller. Il sera toujours temps de revenir sur une formation plus classique plus tard.
Enfin. Et puis ça peut largement marcher, puisque votre fils, vous le disiez hors antenne, à 24 ans, a déjà monté son entreprise
d'État. Voilà, maintenant,
félicitations à lui.
Bravo.
Et vive la formation professionnelle.
Exactement.
Alors, Mathieu, des écoles de verrerie ou de souffleurs de verre, il en existe. Alors, c'est ça, vous me disiez, mais pas beaucoup quand même en France.
Non, il n'y en a pas énorme, non. Non, non, effectivement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir 3 écoles. On va en avoir 2 publiques et une plus ou moins privée. Alors, quand je dis privée, c'est-à-dire qu'on est plus sur de l'alternance directement.
Ouais.
On va avoir directement un CAP qui va se faire en 2 ans. Et un brevet de métier d'art qui peut se faire aussi en 2 ans.
Mmh.
Donc on va avoir ce cursus-là qui est, on va dire, le plus simple. Même si maintenant ça a dû changer, ils ont dû changer, ça doit être maintenant un CAP sur 3 ans où on est un peu plus polyvalent, qui est très formateur en fait. puisque c'est pas parce qu'on est artisan et artisan d'art, c'est vrai aussi, que derrière, on ne sait pas produire. Et en fait, c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre.
De votre activité, bien sûr.
Exactement, c'est d'avoir en fait cette régularité dans le travail. Et toute cette régularité, en fait, passe par la formation initiale, quoi. Si on n'a pas les bases, on n'est pas bien, quoi.
Et donc après cette formation initiale et ses bases, j'imagine qu'il y a tout dans vos métiers, alors que ce soit pour l'autodidacte que vous êtes, Jacinta, ou même Charline, peut-être vous êtes autodidacte, vous avez été formé, vous, à la tapisserie.
J'ai un petit CAP tapissier décorateur que j'ai passé à Châteauroux.
Ah là, ok. Mais alors, donc,
village très sympa.
ville de naissance de Gérard Depardieu et Michel Denisot.
Voilà. Si jamais vous savez.
Non, et Châteauroux est dans le Berry.
Oui, absolument. Exactement.
Donc formation initiale, mais j'imagine que vous apprenez aussi au contact de maîtres, si on peut dire ça comme ça.
Bien sûr.
C'est hyper important, que ce soit pour la couturière, la tapissière ou le souffleur de verre, ou même l'illustratrice. Quels sont vos maîtres et vos inspirations, ou comment vous avez appris sur le tas finalement?
Allez, Véro. À toi.
Alors, moi, je viens d'une famille où il y a pas mal d'artistes. Oui. Et vers 12 ans, j'ai été inscrite à un atelier chez un peintre à Montélimar qui s'appelait Tortel. Et ensuite, tout au long de mes de vie, j'ai côtoyé des artistes et j'ai travaillé sur, par exemple, la base du dessin et de la sculpture, c'est les nus. Donc, j'ai fait du nu avec des modèles vivants, en modelage, en peinture, en dessin, et voilà, j'ai fait l'acquisition de mon savoir-faire à mon humble niveau auprès de professionnels des arts, cette fois-ci, pas de l'artisanat, mais des arts. Voilà.
C'est vrai que vous êtes l'artiste dans ce studio un petit peu, parce que Mathieu, est-ce qu'un artisan d'art est un artiste? Est-ce que vous vous considérez comme un artiste, vous, par exemple?
Ah, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on a un peu débattu là juste avant, et c'est vrai que moi, je me considère plus comme artisan d'art, on va dire, puisque pour moi, l'artistique, c'est vraiment, on va dire, un savoir-faire, quelque chose qui va être un peu plus cérébral. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que je me sens moins là-dedans. Après, moi, je suis artisan d'art parce que aussi, je fais des objets qui vont être, on va dire, utiles, on va dire, je vais faire l'utilitaire. Et donc, du coup, je trouve que dans l'artistique, on a moins, et même pas du tout, à la base, sur de l'artistique, on est vraiment sur quelque chose de penser, d'imaginer, qui va servir à rien. Alors, il y a des gens qui adhèrent et qui adhèrent pas. C'est vrai que à quoi ça sert? À chaque fois, on nous demande beaucoup ces questions-là. Même moi dans ce que je vais faire, parce que après c'est pas parce que je fais des choses qui sont utiles, des fois j'en fais qui sont vraiment inutiles aussi.
Oui, mais ça peut ça vous fait aussi peut-être du bien à vous dans votre quotidien. On n'est pas obligé de mercantiliser la moindre.
Exactement, c'est ça. Donc c'est vrai que on a plus ce rapport à l'artistique sur au pire ça sert à rien, et donc du coup ça va être un peu plus artistique. Mais c'est vrai que moi je fais plus de l'artisanat d'art en me disant je vais faire des verres, je vais faire des choses utiles, donc du coup plus sur de l'artisanat d'art. Oui, bien sûr.
Et on va revenir dans la partie suivante, dans le détail de vos actions à tous les deux, qui est effectivement exposée au festival. On va parler du festival aussi. Mais il y a quelque chose que vous avez en commun, Jacinta et Mathieu, c'est que vous réutilisez des matériaux, et aussi l'artisanat d'art, ça peut être une voie vers le réemploi et vers l'économie circulaire, locale, et donc le développement durable et l'avenir. Donc ça, c'est important, mais on développera cette chose-là dans la prochaine partie. On se quitte un petit peu en musique, et puis avec le flash info local cette fois-ci, pas de guerre en Iran et de Coupe du Monde de football, mais ce sera Jean-Philippe Dandurand qui nous fera le flash info local. À tout de suite, on se retrouve dans une petite dizaine de minutes.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et nous voilà de retour pour la troisième partie de l'invité du 12-13 en marge du 4e festival des métiers d'art de Tyros, qui aura lieu ce week-end dans les arènes, en espérant, mesdames organisatrices, que la chaleur sera un petit peu moins forte ce week-end qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais ça devrait le faire.
On l'espère.
On l'espère, exactement. Alors, rentrons dans le détail de nos deux autres invités qui vont exposer à ce festival, à savoir donc Mathieu et Jacinta. Je vais d'abord demander à Jacinta de nous emmener dans son atelier de couture, savoir quelles sont vos inspirations, les tissus que vous préférez et le confectionnement des habits que vous faites. Racontez-nous un petit peu votre art.
Alors, il y a de quoi dire. Alors, dans mon atelier, c'est un grand méli-mélo, on va dire, de matières premières. Puisque ma matière première, en fait, c'est des tissus. J'essaye à mon niveau de redonner vie à des tissus qu'on a tendance à oublier au fond des étagères ou dans les surstocks. Et parfois même qui sont destinés à être jetés, parce que quand les gens savent plus quoi en faire, malheureusement, ils finissent par les jeter. Donc ça peut aller du tissu d'ameublement jusqu'à
au drap de grand-mère.
Au drap, alors ça c'est
pas
pépites.
Mal de faire des chemises en drap de.
Alors je suis plus sur des accessoires pour
d'accord,
le moment.
D'accord.
Effectivement, il y a des petits projets qui sont en train de mûrir, mais pour le moment chute. Mais pour le moment, je suis plus sur des accessoires, on va dire. Alors il y a les accessoires. Pour un peu accompagner les pratiques autour du bien-être, comme des petits coussins pour la méditation, mais finalement qui s'adaptent très bien pour les siestes, quand il fait très chaud d'ailleurs. On peut avoir des sacs, on peut avoir des pochettes. Mes petits chouchous qui plaisent bien, ce sont des couvre-livres, en fait, qui sont là pour les amateurs de lecture.
Alors toujours avec du tissu, j'espère.
Toujours avec du tissu, donc tissu recyclé.
De réemploi, voilà.
De réemploi.
Du vieux tissu qui ne sert plus.
Exactement. La mercerie, pareil, tout ce qui est dentelle, bouton, enfin voilà, je chine beaucoup. C'est la base.
Vous êtes chez vous, dans votre maison, votre appartement. Alors il prend combien de place en proportion de l'habitation
C'est une pièce, c'était une ancienne chambre, donc du coup, maintenant c'est ma pièce dédiée.
Donc pas besoin d'extracteur d'air ou de refroidisseur de four comme pour Mathieu, on va y venir, mais quand même. Vous avez quoi, une machine, plusieurs j'imagine, machine à coudre?
Oui, machine à coudre, une brodeuse, une surjeteuse, et beaucoup aussi, toutes les petites finitions à la main, donc il y a aussi beaucoup de petits accessoires, les incontournables de la couturière finalement.
Et alors le nom, dites-nous, le nom de votre atelier?
Dans mon petit atelier. Voilà.
Du côté de La Source, là par contre, en face du plateau, Athos, alors oui. Mathieu, comment s'organise l'atelier d'un souffleur de verre?
C'est assez rudimentaire en fait, parce que c'est un métier qui a plus de 2000 ans. Donc du coup, il n'y a pas grand chose qui a changé à part les consommables. Donc on va dire qu'à la base, quand on travaillait le verre, on travaillait avec, on chauffait au bois.
Oui.
Bon, après, ça a été le charbon, après, ça a été le fioul. Maintenant, quand même, on essaye de faire des choses qui sont alors plus ou moins écologique, on va dire. Mais on est plus sur de l'électricité, sur du gaz qui nous permet de chauffer plus rapidement et d'avoir moins de contraintes, surtout, que du charbon ou du bois, puisque il y a des...
Il faut le stocker, le charbon, le bois, même si c'est renouvelable. Bon.
Exactement, et puis bon, il y a beaucoup de forêts de pins quand même dans les Landes, mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient très très contents quand même que je prenne 10 terres de bois par semaine. Donc du coup, on va faire ça avec du gaz, de l'électricité. L'atelier n'est pas très très grand. Je le partage avec ma compagne qui est aussi souffleuse de verre, elle s'allume. Donc on s'est rencontrés aussi sur ce métier là et après donc du coup je vais moi travailler sur du recyclage aussi.
Ouais.
Donc là je vais récupérer des bouteilles, bouteilles de bière, bouteilles d'un alcool anisé fait du côté de Marseille, très très intéressant.
Bouteilles de jus de fruits en verre.
Exactement.
Alors, il ne faut pas qu'elles soient cassées, on est d'accord.
Alors non, en fait je viens, donc quand on dit recyclage, oui voilà, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir du recyclage, donc du coup vraiment venir fondre du verre, refondre du verre qui a déjà été fait pour pouvoir faire des objets avec. Ce qui est un peu plus compliqué puisque... On va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs styles de verre. Du coup, il y en a qui vont pas avec d'autres. Donc, du coup, il y a des problèmes de compatibilité. Oui. Pour éviter, moi, ce problème de compatibilité et en même temps aussi de consommation, puisqu'il faut savoir qu'on a un métier et les souffleurs de verre, c'est très, très énergivore. Donc, on va compter à peu près pour un four de fusion avec du verre en fusion. On va compter à peu près entre 1,5 tonne et 2 tonnes de gaz par mois. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Et en recyclant du verre en fait et en laissant la bouteille telle qu'elle est, juste en la remontant en température, ça me permet de ne plus avoir en fait ce côté gaz alimenté tout le temps aussi. Et donc du coup je viens allumer mon four quand j'en ai vraiment besoin de travailler.
Donc on limite au maximum la consommation d'énergie.
Exactement.
Mais alors après en quoi consiste, enfin comment Qu'est-ce que vous en faites après de ces bouteilles, par exemple, d'apéritifs anisés marseillais que vous récupérez, j'imagine, chez les amis?
Exactement, oui, amis. Alors après, oui, ça permet donc ce côté recyclage aussi, donc chez les amis qui vont des fois pas forcément recycler leur verre, donc du coup, ou qu'on part.
Ils vont à l'atelier, comme ça, ils boivent un petit café le matin, exactement. Tiens, je te dépose mon verre.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait, après, même dans les bars aussi, souvent, parce qu'on a beaucoup de bars sur la côte, et donc en fait, ils n'ont pas le temps, des fois, ils n'ont pas les moyens d'avoir les poubelles de recyclage en fait à côté des bars de plage, donc c'est très compliqué pour eux, donc il y en a certains que je vais voir directement donc pour récupérer leur verre aussi. Et après, avec ces bouteilles, en fait, je vais en faire j'essaye de garder la forme et les écritures qu'il va y avoir dessus au maximum, donc je vais en faire des carafes d'eau, je vais en faire des vases pour les plus petites bouteilles, je vais en faire des verres. Je commence à refaire d'accord, un peu plus d'utilitaire aussi, et donc du coup on reste sur quelque chose qui peut être réutilisé et utilisable en fait au quotidien.
Et en termes de quantité de production, vous êtes donc tout seul ou avec votre compagne, c'est ça? Ça envoie combien de carafes à la semaine ou quoi? Il y en a suffisamment pour vraiment récupérer des cartons de verre vide ou...
On peut en récupérer. Je pense que je peux récupérer. Ah ouais, non.
D'accord.
Et puis il y en a partout. En fait, on se rend compte au bout d'un moment quand on en parle d'un côté ou d'un autre. Il y a des restaurants qui me disent mais moi je sais pas où les mettre, je sais pas quoi faire avec. Et des jolies bouteilles, on en a tous. On connaît tous quelqu'un qui a des jolies bouteilles chez lui qui prennent la poussière, qui servent à rien. Et donc, en fait, moi, des fois, je leur dis, mais si tu veux, je peux faire quelque chose avec. Et donc, du coup, tu vas pouvoir l'utiliser. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui collectionnent les bouteilles juste comme ça. Et donc, du coup, ça leur permet de faire quelque chose avec, quoi.
Donc, vous retravaillez des bouteilles faites, vous les rendez plus artistiques, soit plus fines, soit colorées peut-être un peu différemment ou...
Même pas. C'est un peu le problème qu'on a. Je prends vraiment la base, puisque après, si on rajoute des verres de couleurs différentes, on va avoir ce qu'on appelle un problème de compatibilité.
Ah oui, c'est ça.
Donc, d'accord, du coup, ça va casser, forcément. Donc, le but est vraiment de garder la base d'une bouteille et puis qu'on se rende compte de dire, mais en fait,
c'était une bouteille de bière, mais elle est devenue autre chose.
Exactement.
Donc, un vase ou un objet de déco ou un verre.
Mais qu'on retrouve.
Un service de verre. Vous faites, aussi, vous faites des services que vous
bien
vendez
sûr,
après
bien sûr, ouais.
Et alors, il y a un espace de vente?
Alors, non, c'est pour ça qu'on a Mestri Art pour faire aussi toutes ces jolies expositions et les vitrines, puisque comme Jacinta, moi je travaille chez moi. Ouais. Et donc, du coup, pour accueillir du public, c'est vraiment très compliqué. On a un atelier qui est tout petit, donc ça reste compliqué.
Oui, accueillir du public, mais aussi j'ai envie de vous demander pour vendre vos productions, parce que il faut pouvoir en vivre, il faut pouvoir payer le gaz, il faut pouvoir acheter les tissus, etc. Et puis payer les factures, tout ça. Comment
est-ce qu'on récupère par rapport à ce que beaucoup croient, imaginent au niveau de tout ce qui est upcycling, on a l'impression qu'on nous donne tout. Non, on achète notre matériel.
Vous chinez, vous disiez tout à l'heure. Voilà, upcycling, pour ceux qui n'ont pas le terme, upcycling, c'est réemploi, recyclage.
Exactement.
Etc.
Tout à fait, c'est ça.
Donc oui, il y a aussi, alors vous avez appris soit sur le tas, soit à l'école, des métiers manuels, mais... des choses qui ne s'apprennent pas forcément, c'est comment arriver à vendre après ses productions, à faire un petit peu de travail de commercial, etc. Comment vous vous en sortez pour alors pas parlons pas de chiffres.
Ah non,
parlons
non,
pas de chiffres, mais
non,
parlons
mais sans
de,
parler de chiffres,
parlons
c'est
de la
que...
manière dont vous arrivez à écouler entre guillemets vos productions, parce qu'une fois que vous avez fait votre service de verre, il faut l'écouler,
sûr,
quoi. Comment ça se passe?
Eh bien, c'est vrai que là encore, je rebondis sur ce que Charline fait et Véro font beaucoup, et donc qui nous permettent en fait d'avoir un accès et que le public ait
une visibilité,
exactement. Après, un peu de réseaux sociaux aussi, beaucoup de bouche à oreille, et en fait, on se rend compte qu'avec le temps, on arrive à avoir une certaine clientèle, et donc du coup, tout ce qui est salon, exposition. Le bouche à oreille nous permet de pouvoir vendre nos produits. Après, c'est toujours plus facile. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. C'est toujours plus facile de créer notre produit que de le vendre, puisque après, la vente, c'est un vrai métier. C'est un métier. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué, mais avec le temps, moi, je trouve que on arrive.
Ça demande de la patience. Voilà.
C'est ça. Ouais,
c'est de la patience. Ça. C'est de la rigueur, de la patience et créer des rendez-vous en fait. Et effectivement, même si on n'est pas très réseaux sociaux,
c'est coup de fil,
au moins communiquer. Ouais. Voilà.
À partir du moment où il y a un contact avec quelqu'un qui est intéressé pour un coussin ou un service, bim, coup de fil. Est-ce que je peux venir voir ce que vous faites?
Exactement.
Là, après, le contact se fait. Il y a
aussi. C'est pas parce qu'on a des ateliers effectivement qui sont pas ouverts au public que les gens peuvent pas s'ils sont intéressés ou s'ils ont vu, nous rencontrer aussi. Si on est disponible, on est aussi là pour eux. Quoi.
Donc effectivement, on invite tout un chacun, auditeurs, etc., à aller voir déjà la page, que ce soit Facebook ou Instagram, enfin les réseaux sociaux qui sont rondement menés par une bénévole de votre association qui fait de très belles choses. Voilà.
On a allumé le micro. Super travail.
Merci Léa.
Voilà, merci Léa. Vous pouvez aller voir donc, sur les pages Facebook et Instagram, il y a... un trombinoscope, un petit peu, on peut dire ça, de chaque artisan qui sera exposant, mais il est classe, le trombinoscope. Non, il y a une présentation de chaque artisan.
Oui, franchement, elle a grave assuré. C'est super
qui permet d'aller voir un petit peu tous les exposants que vous aurez le plaisir de voir dans les arènes de Tyros, et donc aussi la page de Mathieu, la page de Jacinta, pour ceux qui seraient évidemment intéressés par leur production. On arrive à la troisième pause de notre émission, messieurs, dames. On se quitte encore quelques minutes en musique avant de terminer pour conclure et de parler de ce festival. On a laissé la parole aux artisans, on a parlé de l'association, c'est l'heure de parler du festival et de ce qu'on y trouvera ce week-end. Mais avant ça, un petit peu de musique, à tout de suite.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et c'est l'heure de la dernière partie de notre émission, l'invité du 12-13 aujourd'hui, où nous avons parlé d'artisanat d'art, des métiers d'art, parce que ce week-end, et nous n'en avons pas encore trop parlé, donc ça va être le moment d'en faire un peu la publicité, de savoir ce qu'on va faire à ce festival des métiers d'art 4e édition, donc à Tyros, Saint-Vincent de Tyros, dans les Landes, à côté de Tosse. Qu'est-ce qu'on va y trouver à ce festival ? Alors déjà, c'est la 4e édition. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses dans cette 4e édition, ou est-ce que c'est une répétition des 3 éditions précédentes ? Et puis, quels sont les nouveaux artisans qu'on va voir ?
Alors oui, c'est une nouvelle édition, car nouveau lieu,
voilà,
qui est déjà important, oui. Déjà. Voilà.
Les arènes taurines.
Les arènes de Tyros. Donc ça faisait un petit moment qu'on y pensait.
Ouais.
Et merci d'ailleurs à la ville de Tyros, voilà. Ils nous ont bien, bien aidés. Et ce n'est pas fini, hein, parce que vendredi, on commence à mettre en place et on a rendez-vous avec toute l'équipe technique. Donc, on va être tous ensemble, voilà. Donc déjà, ça, c'est vraiment une nouveauté. Et ensuite, on a en nouveauté de cette année, on a pas mal d'artisans. Voilà, oui. Donc ça, c'est chouette. On a voulu un peu remodeler... tout ça, et puis il y en a qui voulaient revenir, il y en a qui n'étaient pas là, qui nous ont rappelé pour l'année prochaine, donc déjà, voilà.
Alors quel est le spectre un petit peu des typologies d'artisanat d'art qu'on va pouvoir avoir, à part le souffleur de verre et la couturière, on a quoi ? Quelles sont les originalités un petit peu cette année ?
Alors on a Univers de la Création qui ne travaille que les aiguilles de pin en vannerie, voilà. Elle est de Souston, je crois, Souston. Qu'est-ce qu'on a aussi
Un coutelier.
On a un coutelier de Seignos. Ouais.
Donc forgeron, hein, c'est ça, hein, forgeron.
Oui, 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 tout à fait. Après, on en a 25, donc du coup... Et puis, on ne va pas tout dire.
Alors, on a des céramistes. Bougies.
Photographes.
Donc, rappelons à tous qui nous écoutent que c'est absolument ouvert à tous et gratuit.
Gratuit.
Qu'en plus de découvrir les différents artisanats d'art auprès des gens qui exposeront, vous aurez aussi des démonstrations.
Tout à fait.
C'est ça ?
Oui, exactement.
Démonstrations et ateliers.
Oui.
Ah,
on a Octopus qui fait du macramé, qui propose des ateliers pour pouvoir s'essayer à la technique.
Oui. Ben, parfait. Et puis je crois qu'il y a aussi des petites activités, voilà, dans les arènes, il y a un petit déjeuner, je crois, qui est prévu. Alors, il était sur inscription.
Alors le petit déjeuner, il est réservé aux artisans, aux élus, à tous ceux qui nous ont aidés. Voilà, c'est un petit déjeuner qui est offert par Proxy de Saint-Vincent de Tyros. Donc on les remercie.
Oui.
Voilà. Donc ça sera un temps d'échange juste avant d'ouvrir les portes. Le samedi à 11h au public.
Donc samedi à 11h jusqu'à...
22h fermeture.
Le samedi, voilà, et on reprend le dimanche.
Et on reprend le dimanche.
Jusqu'à 22h aussi.
Non, non. 18h. Là,
il faut ranger.
Il faut ranger. Ouais,
il faut ranger. Donc voilà. Et samedi soir, important, on a un concert à 19h30. Ouais. Voilà, c'est les Fancy Dogs. Donc si vous voulez danser du rockabilly, c'est le moment.
Vous êtes les bienvenus. Tout
donc
à fait.
Concert de rockabilly et découverte des métiers d'art ce week-end à Tyros en perspective dans les arènes. Messieurs, dames, c'est déjà l'heure de nous quitter. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie pour la qualité des échanges. On a plongé un petit peu dans les ateliers de chacun. On a découvert une association qui fait beaucoup pour la transmission des métiers d'art et c'est important. On a même eu le temps de saluer l'enseignement professionnel français à qui on doit beaucoup et qu'il faut qu'il perdure encore. Je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite bon courage pour l'organisation du festival sous cette chaleur
en
espérant
beaucoup.
Qu'il fera
merci pour l'accueil.
Un peu meilleur, mais avec grand plaisir. Mmh. Et bonne continuation à chacun d'entre vous. Pour notre part à Souston, on se retrouve vendredi pour une prochaine émission. On va parler permaculture, mais j'en dis pas plus. C'est l'heure de vous saluer tous. Adi Schatz et à très bientôt.
Merci.
Merci. À l'année prochaine, Marc.
Au revoir. Oui, à l'année prochaine.